Bon, alors attention, on est prêt, moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous nous retrouvons avec Anne et Laura pour notre Clap Cinéma numéro 4. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Camille. Bonjour Camille.
Bonjour.
J'ai pas dit bonjour à Anne et Laura, donc bonjour Anne et Laura. Donc bonjour Camille, qui est étudiante en journalisme à Toulouse et qui est en stage chez nous et qui aime le cinéma. Donc on lui donnera la parole tout à l'heure pour un choix de film. Et s'il est un peu stressé, ça fait partie du jeu. Alors pour une fois, je vais commencer parce que pour faire le lien entre plusieurs de mes émissions, vous savez que je réalise aussi Air de Rien et Itinérance. Et dernièrement, dans le festival Émission, on a eu sur les trois concerts un très beau concert de viol de gambe à Aigle. Et nous avions Olivia Guterres et Mille Usines de Pas qui nous ont montré la viol baroque, mais également la viol contemporaine. Et ça m'a donné l'idée de vous parler du film « Tous les matins du monde » d'après le livre et scénario de Pascal Quignard et mis en réalisation par Alain Corneau en 1991. Ce film a obtenu le César du meilleur film en 1992 et a surtout contribué à la renaissance de la musique baroque. Donc vous entendez en tapis, ce que l'on appelle en tapis, la musique de Jordi Savall, puisque nous avons des grands noms dans ce film, donc Alain Corneau à la réalisation, Pascal Quignard au scénario, pardon, Jordi Savall à la musique, et comme acteur, Jean-Pierre Mariel, Guillaume et Gérard Depardieu, Anne Brochet et beaucoup d'autres. Alors, ce film relatait les relations entre Jean de Sainte-Colombe, qu'on appelait Monsieur de Sainte-Colombe, qui vit très reclus, janséniste, qui recherche constamment, loin du monde, et son élève, d'abord il refuse son élève, Martin Marais, qui est le narrateur du film, qui est l'inverse de Sainte-Colombe, puisqu'il est très ambitieux, il voudrait aller à la cour. Et ça donne dans le roman et dans le film des scènes assez extraordinaires. Et le film est ponctué par régulièrement, chaque chapitre, par tous les matins du monde. Mais dans le chapitre 26 du livre de Pascal Quignard, pardon, c'est « Tous les matins du monde sont sans retour ». Alors je vous passe le pitch, hein, l'histoire d'amour, etc., etc. C'est magnifique et c'est une belle occasion d'écouter, je fais un peu de pub pour moi, l'itinérance avec Olivia Guterres et Mélésine Depas sur la viol de gambe. Je vois qu'elle sourit, notre Laura, donc elle est toute prête à nous parler du film qu'elle a choisi, c'est-à-dire Memento.
Donc oui, Memento est un thriller américain réalisé par Christopher Nolan avec Guy Pearce, Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano. Si Nolan est aujourd'hui largement reconnu pour des œuvres comme Inception, Interstellar ou la trilogie Batman, Memento demeure l'un de ses films les plus audacieux et injustement sous-coté, révélant déjà toute la singularité de son cinéma. Le film raconte l'histoire de Leonard Shelby, victime d'une amnésie entérograde à la suite d'un traumatisme crânien. Incapable de conserver de nouveaux souvenirs, il part à la recherche du meurtrier supposé de sa femme, un certain John G. Pour mener son enquête, Leonard s'appuie sur des moyens peu conventionnels, des notes, des photographies Polaroid et surtout des tatouages qu'il se grave sur le corps afin de conserver des informations essentielles. Le scénario est adapté d'une nouvelle écrite par Jonathan Nolan, c'est-à-dire le frère du réalisateur. La force majeure de Memento réside dans sa construction narrative. Le film adopte une chronologie inversée, débutant par la fin pour remonter progressivement vers le début de l'histoire, transformant le récit en véritable jeu de pistes. En parallèle, des scènes en noir et blanc racontées dans l'ordre chronologique cette fois viennent s'insérer dans le récit principal. Les deux lignes narratives évoluent simultanément jusqu'à se rejoindre, créant une structure complexe mais parfaitement maîtrisée. Ce dispositif narratif place le spectateur dans une position active, l'obligeant à reconstruire l'histoire pièce par pièce. La narration volontairement non fiable reflète l'état mental du protagoniste et provoque un sentiment de confusion et de doute constant. À mesure que le film avance, le spectateur en vient à partager la paranoïa de Léonard, doutant de chaque personnage et de chaque information transmise. Derrière cette construction sophistiquée se cache pourtant une intrigue relativement simple. C'est précisément ce contraste qui fait la force du film. Christopher Nolan démontre qu'une histoire minimaliste peut devenir une œuvre profondément marquante grâce à un traitement narratif inventif et une mise en scène rigoureuse. Aucun élément n'est laissé au hasard, chaque détail trouve sa place au fil du récit. Enfin, le film se distingue par son esthétique au style rétro, notamment à travers l'utilisation de Polaroid, comme je l'ai dit auparavant, et une photographie marquée qui renforce l'atmosphère singulière de l'œuvre. Memento s'impose ainsi comme un thriller exigeant, déroutant et brillant, et demeure une référence incontournable du cinéma de Christopher Nolan.
Merci Laura. Alors je sais que vous aimez beaucoup la musique des films, et dans ce film, il y a Radiohead. Vous nous parlez un peu de cette musique,
exactement,
avant qu'on l'écoute.
Et ben, en fait, la musique, bon, après, elle n'intervient pas dans le film en lui-même, mais elle intervient à la fin du film pour annoncer les crédits. Elle s'intitule « Paranoid Android ».
Eh bien, nous écoutons. Dans cette émission, je l'ai dit en introduction, nous avons la chance d'avoir Camille, donc c'est sa première intervention dans Club Cinéma, et vous avez choisi Requiem for a Dream, donc on vous écoute Camille.
C'est ça, du coup, pour ma première fois, je viens parler de mon film préféré Requiem for a Dream, qui est sorti en 2000. Il a été réalisé par Darren Aronofsky, donc qui a été aussi connu pour Black Swan ou The Whale plus récemment. Avec une distribution qui est composée de Jennifer Connelly, Jared Leto ou Ellen Burstyn, Requiem for a Dream se place dans un genre mi-drame, mi-horreur. Donc on suit Harry Goldfarb, qui est un toxicomane. Il passe ses journées en compagnie de sa petite amie Marion et de son ami Tyrone. La mère d'Harry, elle, Sarah, souffre d'une autre forme de dépendance, la télévision. Alors quand il est sorti, il n'a pas fait l'unanimité. Beaucoup de personnes ont estimé que c'était un film sordide et lugubre, comme cette critique. Il se dégage du film une atmosphère trop oppressante et sinistre, pour ne pas utiliser le mot glauque, voire malsain. Jamais un film ne m'aura plus choqué que Requiem for a Dream. Vous l'aurez donc compris, le film ne fait pas l'unanimité. Dès sa sortie, le long métrage choque dans sa manière de traiter l'addiction à l'héroïne et aux amphétamines, ainsi que l'addiction à la télévision. Les scènes sont totalement explicites, rien n'est censuré dans la prise de drogue. On suit la descente aux enfers de chacun des protagonistes avec des visuels frappants sur leur consommation. Ils sont tous à la recherche d'un bonheur qui semble s'évaporer au fur et à mesure du film. Tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, la joie, la bonne humeur, les rires, les liens qui les unissent, tout ça, ça se passe au début et ça s'évapore et c'est très vite chassé par la drogue et la prostitution vers la fin. La bande originale, elle a été réalisée par Clint Mansell. Cette BO installe d'autant plus ce sentiment de malaise profond lors du visionnage. La musique Lux Aeterna, donc c'est le leitmotiv du film, elle est aujourd'hui connue par tout le monde et a marqué les esprits de tous. On retrouve même une version orchestrale dans la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours. Et donc pour finir, bien qu'aujourd'hui Requiem for a Dream est jugé comme un film culte, il divise toujours autant par son esthétique très crue que par son supposé sensationnalisme.
Merci Camille. Alors j'allais me poser une question personnelle parce que vous dites que ça peut être considéré comme glauque, sordide, et pourtant vous avez aimé.
Moi j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai vu très jeune et en fait moi ça m'a montré l'envers du décor de la drogue et moi ça m'a vaccinée à vie, à vie pour ne jamais en prendre. C'est pour ça que moi c'est un film que j'aime beaucoup.
Donc c'est un film de prévention.
Moi je le vois comme ça en tout cas.
Donc nous écoutons la musique. Alors sur Radio Alliance Plus, dans ce club cinéma numéro 4, nous avons donc entendu le choix de Laura, de Camille, et c'est au tour d'Anne qui a choisi un film majeur, The Big Lebowski.
Alors, un film majeur, je ne sais pas. En tout cas, si Camille, de son côté, nous a parlé de Requiem for a Dream comme d'un film culte, on peut vraiment dire tout autant de Big Lebowski. C'est un véritable film culte pour moi, au-delà de tous les autres. Voilà.
De quelle
Évidemment,
année il est
1998. Et bon, ça lui fait bientôt 30 ans, puisqu'il a été réalisé en 1997. Voilà. Alors évidemment, le genre du Big Lebowski n'a rien à voir avec Requiem for a Dream. C'est même complètement à l'opposé. Et c'est une histoire bien, bien difficile à raconter, tant elle est pleine de rebondissements incroyables. Alors j'essaye. Jeff Lebowski, dit le Dude, est un tranquille marginal qui vit à Los Angeles. Il ne consomme pas, il n'aspire à rien, il refuse l'effort, la confrontation, le conflit. Tantôt en peignoir, tantôt en bermuda et t-shirt à bout de souffle, il passe ses journées à boire des cocktails avec son copain Walter, un ancien du Vietnam, son bras armé en quelque sorte, et le très effacé Donnie, le type sympa qui a toujours l'air de se demander ce qu'il fait là. Vraiment pas le type à se faire passer à tabac, le 12 en tout cas, par deux malfrats. Et pourtant, c'est bien ce qui lui arrive un jour. Mais il y a erreur sur la personne, d'où toute la suite du film. Les malfrats l'ont pris pour un autre Lebowski, millionnaire lui. Et en partant, après leur défaite, l'un d'eux pisse sur son tapis. Alors ça, c'est l'offense de trop pour le dude. Ça le tire presque de sa léthargie habituelle. Donc, avec Walter, toujours prêt à en découdre, et Donnie sur leur basque, il part en quête d'un dédommagement auprès de son richissime homonyme pour ce fameux tapis. En toute innocence d'ailleurs. C'est là que débute une suite rocambolesque de péripéties foutraques et hilarantes la plupart du temps. Un vrai chaos en fait, mais avec une action qui ne retombe jamais et qui repose sur des dialogues hilarants et souvent absurdes, et sur l'interprétation de Jeff Bryce tout d'abord, dans le film de sa vie d'après ce qu'on en sait. Il sort avec délectation de son héros, de son profil de héros habituel, typiquement hollywoodien. Ici, on l'aime et on le plaint, on a envie qu'il s'en sorte malgré tout. On ne parlera pas de John Goodman en horrible Walter et du numéro surprise de John Turturro dans un numéro insensé au bowling. Gardons la surprise. Le choix de Los Angeles, qui est à la fois un haut lieu de la contre-culture des années 70 et capitale des blockbusters, si on peut dire, ne tient pas du hasard, évidemment. Il permet aux deux frères, incidemment, de faire une gentille critique de cette incarnation des contradictions de l'Amérique entre films noirs et western, mais ni l'un ni l'autre, bien sûr. Alors le film, également, reçoit d'abord un accueil mitigé, mais avec le temps, il se transforme en film culte, grâce à tous ces personnages atypiques, ces séquences de rêves et ces dialogues décapants, et sans parler de la bande originale, très éclectique, dont vous allez entendre un bout tout à l'heure. Mais petite cerise sur le gâteau, le croirez-vous ? Leonardo DiCaprio déclare s'être inspiré du Dude pour créer son rôle dans le tout récent Une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson. Quant à Jeff Bryce, il se dit prêt à reprendre le rôle du Dude aujourd'hui. Pas sûr que les frères Cohen soient d'accord.
Por el camino del desierto, el viento me despeina. Suelo aroma de colita, nublado en la del aire. Ella de lo lejos, una luz en tela. La idea de Mexican, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana ya sonar, y me dijo ya mi mimo, esto puedo del cielo, ella se me una vela y nuestra del camino, soy vos el corredor y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Guapo, ella mami amigo,
California. Such a love of planes, such a love of planes. Welcome to the Hotel California. Such a love of planes, such a love of planes. En el espejo, en el techo, champana en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros por propia voluntad. Y a los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, corriasen de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El achéndica portero, por eso no recibí. Puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to see you then.
Nous venons d'écouter Hotel California par les Gypsy Kings pour illustrer le film The Big Lebowski des frères Coen, 1998, présenté par Anne. Et comme Anne n'a pas trop de voix aujourd'hui, c'est l'hiver, c'est la grippe, c'est les rhumes, on donne la parole à Laura pour son deuxième choix, le discours.
Donc à l'origine, je pensais vous parler de films d'animation, plus précisément de Cars 2 et d'un film issu de l'immense univers Pokémon. Mais fidèle à mes habitudes, j'ai fini par retomber dans mes travers. J'ai donc choisi de poursuivre sur ma lancée des films français en vous parlant du Discours, une comédie réalisée par Laurent Tirard en 2020, adaptée du roman éponyme de Fabrice Caro paru en 2016. Le film réunit un casting particulièrement incroyable avec Sarah Giraudot, Julia Piaton, Ken Kojandi et, oui encore lui, Benjamin Laverne.
Ah, j'avais deviné.
Alors non, Clap Cinéma ne va pas se renommer, du moins pour l'instant, fan club de Benjamin Laverne. Rassure-toi, Sylviane, je ne compte pas parler de toute sa filmographie. Le discours suit Adrien, coincé lors d'un interminable dîner de famille. Son père ressasse inlassablement la même anecdote. Sa mère resserre éternellement le même plat. Et sa sœur Sophie écoute son futur mari comme s'il avait découvert la relativité. Pendant ce temps, Adrien attend désespérément une réponse de Sonia, qui lui impose un silence radio depuis un mois. Comme si cela ne suffisait pas, son futur beau-frère, Ludo, lui demande de prononcer un discours lors du mariage. L'angoisse se transforme alors en véritable panique, et si finalement ce discours était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Ce que j'aime particulièrement dans ce film, c'est son format de huis clos. On est enfermé avec Adrien dans ce dîner de famille qui semble ne jamais finir. Les seuls échappatoires se font à travers ses souvenirs ou des flash-forwards du discours du mariage, déclinés dans une multitude de versions possibles, plus ou moins catastrophiques. Le huis clos est souvent un exercice périlleux, car il repose sur un lieu unique et des personnages relativement statiques. Pourtant ici, le film reste étonnamment dynamique. Entre les blagues, l'évolution intérieure du personnage, les souvenirs, les projections mentales et l'attente obsessionnelle du fameux SMS, ces 1h27 de repas familial sont parfaitement rythmés. Le roman était pourtant considéré comme inadaptable par son propre auteur jugé trop introspectif, et pourtant le pari est réussi. Là où le livre donne directement accès aux pensées d'Adrien, le film fait le choix malin de briser le quatrième mur, le personnage s'adresse au spectateur, interrompt le récit, tandis que les autres protagonistes se figent ou se perdent dans des conversations en arrière-plan. Donc ayant lu le roman, certaines métaphores me semblaient difficiles, voire carrément impossibles à transposer à l'écran. Mais Laurent Tirard accomplit un travail remarquable, parvenant à transformer les images les plus loufoques en scènes parfaitement efficaces. L'humour est fin, parfois grinçant, rappelant celui du Sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache, et très honnêtement, j'ai eu de vrais fous rires. Enfin, il est extrêmement facile de se reconnaître dans le personnage d'Adrien, coincé dans un dîner de famille interminable, surtout quand on est plutôt introverti. Donc vraiment, si vous voulez rire, foncez voir ce film. En plus, sans contexte, il y a même un caméo de Wolverine, le personnage de l'univers Marvel, et ça, c'est plutôt incroyable.
Merci Laura. Alors, dans cette émission, on voit l'éclectisme de nos choix. Hein, nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas les mêmes goûts. Mais ce qui ressort, moi, quand je vous écoute, c'est la difficulté de transposer en fait un roman en film. Et je reviens au point de départ. Pascal Quignard n'avait jamais écrit pour le cinéma. Et en fait, il avait écrit une première nouvelle qui s'appelait La leçon de musique. Il est lui-même violoncelliste en 1987. Et il ne voulait pas du tout, il ne pensait pas du tout adapter son livre. Et c'est Alain Corneau qui l'a travaillé au corps, on va dire, en lui faisant miroiter, bien sûr, Jordi Savall. On ne peut pas dire non à Jordi Savall. Et Pascal Quignard a commencé donc sa carrière de réalisateur avec Tous les matins du monde. Donc, le cinéma, c'est de la pellicule, c'est du film, c'est du mouvement, mais c'est aussi de la littérature, et je crois que c'est et de la musique, bien évidemment. Et je crois que toutes les quatre, c'est ce qu'on aime dans le cinéma. Un moment d'évasion, un moment de...
On peut dire ça, effectivement.
Et bien, merci à vous pour cette conclusion brillante, Anne. Et merci Camille, merci Laura, merci Anne. Et à très bientôt dans un mois. Bon cinéma.